des mots pour le dire. Dominique de Michel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. Comment le corps est perçu dans notre monde contemporain? Comment le corps malade est appréhendé? Enfin, quel est le lien corps-âme? Comment le définir? Voilà les questions auxquelles le docteur Dominique Desmichel et moi-même tenterons de donner un éclairage dans les semaines à venir. Quand tout va bien, les jours où je suis en pleine forme, mon corps, je pourrais presque l'oublier. La bonne santé et la maladie seraient-ils les facteurs déterminants de ma relation avec mon corps?
Les aliments miracles sont-ils vraiment miraculeux?
Un défaut d'être miraculeux, force est de constater qu'ils ont un énorme succès. Tous les ans, il y a un nouvel aliment qui arrive et qui devient le roi et on ne peut plus s'en passer. Alors, pourquoi ce succès? J'ai envie de vous dire que les gens ont besoin de se déculpabiliser de leur alimentation anarchique. Aujourd'hui, notre alimentation occidentale est à 80% d'origine industrielle et cette alimentation d'origine industrielle a des conséquences graves sur la santé. S'il fallait en retenir que 5, je commencerais d'abord par les épices, les herbes et les aromates. Ce sont des mines d'or nutritionnelles, pleines de vitamines, de minéraux, de micronutriments. On peut citer l'ail, le thym, le persil, le curcuma, super anti-cancer, ou même la coriandre, énorme source de calcium. Mon top 4, la levure de bière, qui est plein d'acides aminés et qui est très riche aussi en micronutriments. En troisième, le germe de blé, tout comme la levure de bière, sont très riches en acides aminés et en micronutriments. Deuxième, la graine de lin, que vous allez moudre pour favoriser son assimilation et vous allez en saupoudrer vos plats. C'est une énorme source d'oméga-3 qui va vous protéger et stimuler votre immunité, stimuler votre cicatrisation. C'est très important pour l'équilibre oméga-3, oméga-6 dont on souffre aujourd'hui dans notre alimentation occidentale. Numéro 1, la spiruline, même en comprimé, qui est très très riche en micronutriments, en vitamines, en minéraux et hautement assimilable.
Comment rester en bonne santé? Les sites de conseils pullulent sur Internet et la nourriture arrive en première ligne. Ce que vous n'avez pas pu voir, c'est la petite phrase qui conclut ce clip et qui disait « Prenez le contrôle ». De quoi? De notre corps, de notre santé, de notre destin, allez savoir. Docteur Dominique Desmichel, qu'est-ce que la bonne santé?
On pourrait dire qu'il y a deux approches de la bonne santé. Celle qui nous est peut-être la plus évidente, la plus familière, la plus spontanée, je dirais, à l'intérieur de nous, c'est il ne se passe rien. C'est-à-dire, c'est le silence des organes. C'est-à-dire, je demande à mon corps de faire ceci ou cela, ça fonctionne. Dans ma tête, dans mon corps, dans mes organes d'essence, dans ma digestion, dans ma pensée, dans ma respiration, dans mon cœur, dans toutes ces choses-là, il ne se passe rien. Donc, pour beaucoup de nos contemporains, la bonne santé, c'est le silence des organes. Voilà. Il y a une autre définition de la santé qui me semble tout à fait intéressante et qui est d'un philosophe qui s'appelle Canguilhem et qui dit « Être en bonne santé, c'est pouvoir être malade et revenir à l'état antérieur ». Et ça, je trouve que c'est assez super.
Alors, expliquez-moi.
D'abord, tout le monde sait qu'on est tous, un jour ou l'autre, malade, ou on a une petite maladie. Que ce soit parce que, quand on était enfant, on a, à partir du 5e, 6e mois, attrapé des tas de petites choses, et qu'en gros, on a eu le nez qui coule entre 5 mois et puis 4 ans, qu'on a attrapé des tas de maladies, la varicelle, par exemple. Tout le monde a eu la varicelle, surtout qu'il n'y a pas de vaccin utilisé, en tout cas en France. On a eu ces maladies-là et on a eu donc une capacité à se défendre contre les maladies infectieuses que l'on a acquis. Et puis on sait que quand on est adulte, en général, on a un petit truc, on a un ou deux rhumes par an, on a la petite gastro quand tout le monde a la gastro, et puis...
La grippe qui peut être violente.
Et puis la grippe, cette année par exemple, la grippe est particulièrement importante, une grosse épidémie, pas particulièrement grave, mais quand même tenace, qui dure pas oblatement très très longtemps, mais qui marque quand même. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant de penser qu'être en bonne santé, c'est pouvoir être de temps en temps malade, pendant une relativement courte période, et revenir à l'intérieur. Ça veut dire que être en bonne santé intègre le fait qu'on n'est pas exempt de pouvoir attraper un virus, voire une bactérie, le plus souvent d'ailleurs un virus, d'avoir des symptômes liés au contact avec ce virus, et puis ensuite les choses s'arrangent. Et globalement, on pourrait dire d'ailleurs qu'une des grandes énigmes en médecine, ça n'est pas pourquoi on est malade, c'est pourquoi ça ne guérit pas. Parce que la grande majorité des choses qui nous arrivent, la très très grande majorité des choses qui nous arrivent, guérissent. Et qu'il y a eu des gens qui ont vécu très très vieux de tout temps, parce qu'ils avaient ou de la chance sur le plan génétique, où ils avaient peut-être, eu égard à votre clip là, peut-être une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, ils s'occupaient de je sais pas trop quoi, ou par génie propre ou spontanément, et voilà, ils vivaient vieux. Hein.
Parce qu'on a l'impression que depuis, je veux dire peut-être une dizaine d'années, il y a ce discours de rester en bonne santé. Donc oui. En effet, de faire attention à son hygiène de vie, oui. Et particulièrement à son alimentation
les
au quotidien.
Les deux facteurs fondamentaux qui semblent, je ne suis pas un grand spécialiste, mais il me semble que ce que je dis n'est pas fondamentalement faux, les deux grands facteurs qui contribuent à l'augmentation de notre espérance de vie et pour une part à la qualité de vie, parce que les gens maintenant quand même de 60-70 ans sont le plus souvent autonomes et en bonne santé, ces deux choses, c'est essentiellement l'hygiène et l'alimentation. Hein. L'hygiène est très importante parce qu'elle évite en particulier la très grande majorité des surinfections bactériennes. Ça n'empêche pas les maladies virales, mais ça empêche les surinfections bactériennes. Vous savez que les maladies infectieuses, maintenant, ne sont plus, et depuis très longtemps, une cause importante de mortalité. Et la deuxième, c'est l'alimentation qui permet d'avoir une capacité à se défendre, une capacité à justement rester en bonne santé.
Et on a le sentiment qu'on l'avait un peu oublié, ça. Ou en tout cas, on nous rabat les oreilles depuis quelques années avec le fameux manger-bouger, comme si c'était quelque chose qu'on redécouvrait.
Je pense qu'il y a certaines pathologies qui sont apparues, en particulier l'hypertension artérielle. Hein. Les maladies cardiovasculaires sont liées, pour faire court, en gros, ou à une hypertension artérielle, ou au fait qu'il y ait du calcaire qui se dépose dans les tuyaux. Hein. C'est du cholestérol, pour faire un petit peu court. Ça, évidemment, c'est pas très très bon pour les tuyaux, ni très bon pour la santé. Et l'hypertension artérielle est quand même essentiellement liée à la sédentarisation. Hein. Donc, le fait de faire du sport et de bouger, de faire du sport, pas obligatoirement de manière intense ou intensive, hein, mais d'avoir une activité physique régulière, entraîne une diminution de la pression à l'intérieur de nos vaisseaux. Et ça, c'est bon pour notre espérance de vie.
Avant d'aborder la maladie, il y a, me semble-t-il, dans notre société, une étape intermédiaire qui est une espèce de fatigue chronique, souvent des mal de dos, des manques de sommeil. On a l'impression que c'est un peu chronique, c'est entre les deux. Alors là, est-ce qu'on est en bonne santé ou est-ce qu'on est malade ?
Je crois qu'en effet, il y a des maladies qui émergent. Alors, il y a des maladies particulières qui émergent, comme certains types de cancers. Hein, les lymphomes, par exemple, c'était des maladies qui, il y a 30 à 50 ans, n'existaient pratiquement pas, qui actuellement sont des cancers très fréquemment rencontrés. Hein. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai une de mes patientes chez lequel on a découvert un lymphome cutané. Donc il y a ces types de maladies qui interviennent. Quelle en est la cause ? C'est difficile de le dire. On peut probablement quand même penser que beaucoup de facteurs extérieurs, comme la pollution, tout ce qui concerne les perturbateurs endocriniens, par exemple, sont des éléments déterminants. Mais il y en a d'autres, et en particulier dans ce registre, ces maladies un peu chroniques, qui ne sont pas vraiment des maladies, mais qui font quand même qu'on n'est pas tout à fait en bonne santé, tiennent à nos habitudes de vie, hein, c'est-à-dire probablement un rythme d'activité extrêmement réduit, le fait qu'on est de plus en plus, comme je disais tout à l'heure, des sédentaires, le fait qu'on reste assis dans une chaise sans bouger, parfois dans de mauvaises conditions, et en particulier le grand mal de dos qu'on a appelé les troubles musculo-squelettiques, Mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire le mal au dos. C'est quand même très, très vraisemblablement lié aux conditions particulières de travail ou de transport. Hein. Quand on a une heure de voiture le matin, ou de train, ou de métro, parfois une heure et demie le matin, pareil le soir, qu'on est assis toute la journée devant un écran ou dans un travail posté, à la chaîne, dans une usine... Voilà, c'est... Et les gens disent d'ailleurs très très bien, j'ai mes 3 semaines de vacances l'été, la première semaine est un peu difficile, la deuxième ça va parfaitement bien, et la troisième j'ai plus de douleur, tout va bien. Hein, donc parce qu'ils ont repris une autre activité.
C'est-à-dire que notre corps, puisqu'on en revient au sujet de notre émission, qui est le corps, a des besoins qui ne sont pas forcément compatibles avec la société dans laquelle on vit.
Je pense qu'il ne faut pas idéaliser les choses. Autrefois, on peut penser quand même que les gens qui travaillaient... dans la terre, les paysans, les agriculteurs avaient des pathologies tout à fait importantes, ils portaient des extrêmement lourdes charges, et voilà. Puis peut-être simplement, ils mouraient avant, voilà. Dans notre monde, qui a l'air un tout petit peu aseptisé, on a l'impression que tout est nickel, tout va bien, les gens estiment que, voilà, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas parfaitement en bonne santé, donc d'avoir un corps qui répond parfaitement bien à toutes leurs demandes.
Et on en arrive à la maladie. Un jour, je suis malade et là, rien ne va plus. Comment peut-on définir la maladie? Qu'est-ce qui se passe?
J'avoue que c'est un peu une colle que vous me posez. Je ne sais pas très bien comment définir... Je ne sais pas très bien comment définir la maladie, je dirais.
Déséquilibre.
On est malade quand on n'est pas en bonne santé, voilà. C'est plutôt par défaut, parce que l'état naturel, c'est plutôt d'être en bonne santé. Donc quand on n'est pas en bonne santé, dans un rapport à la fois objectif et subjectif à son corps, eh bien on pourrait dire qu'on est un peu malade. Hein. Alors la fatigue, c'est un vrai symptôme. Donc c'est un symptôme, ça veut dire que c'est juste un signe, comme le mal au dos est un signe, ce n'est pas une maladie. Une maladie, c'est quelque chose d'étiquetable, qu'on peut localiser ou dont on peut faire et la géographie et l'histoire. Il y a un début, normalement il y a une fin. Voilà, on a une gastro-entérite, on a eu un contact avec quelqu'un qui avait cette maladie-là, probablement, ou on ne le sait pas. Puis ensuite, on a des nausées, des vomissements ou les deux. Et puis voilà, puis en général, ça dure 48 heures et puis c'est fini.
Il y a cette histoire, bien sûr, des virus, comme la grippe. C'est-à-dire qu'un corps étranger va déséquilibrer notre propre corps. Avant de commencer cette émission, on parlait des alligators qui ne sont, eux, jamais malades. Comment ça se fait, ça?
L'immunité, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Hein. Il y a beaucoup d'animaux, là, je ne suis pas du tout un spécialiste, il y a beaucoup d'animaux qui ont des systèmes immunitaires extrêmement, extrêmement rudimentaires. Hein. Je crois que les oiseaux, par exemple, ont un système de défense immunitaire qui est très, très, très rudimentaire. Voilà, nous, on a deux types d'immunité. On a une immunité innée, qui est à l'intérieur de nous-mêmes, qui fait que dès la naissance, on est capable de se défendre contre certaines choses. Et puis une immunité acquise, c'est-à-dire on va fabriquer deux types de choses, ou des anticorps, qui sont des espèces de peptides, c'est-à-dire un petit ensemble d'acides aminés, on va dire en gros, de molécules particulières qui vont aller attaquer un virus ou une bactérie, surtout des virus, par exemple les anticorps contre la varicelle, qu'on attrape le plus souvent quand on est petit. Et puis une immunité tissulaire, c'est-à-dire une immunité avec des globules blancs particuliers, un certain type de globules blancs, qui vont aller manger la bête qui est nuisible. Hein. Donc deux types de choses. Un avec des molécules, c'est un produit, une substance, et l'autre, c'est une cellule qui a cette immunité-là. Alors les alligators, c'était à propos d'un article qui est paru récemment dans une revue du soir, et qui disait que ces animaux, malgré leurs conditions de vie difficiles, le fait qu'ils se font des énormes blessures de temps en temps, ben en gros ils sont jamais malades, donc c'est toujours intéressant d'aller interviewer les gens qui sont jamais malades en leur disant comment vous faites. Donc je crois qu'on est allé, peut-être pas interviewer, mais prendre un petit peu de sang de ces alligators qui ont quand même de grosses dents, qui de temps en temps se mordent pas toujours gentiment, avec des grosses plaies, qui vivent dans des endroits où il y a plein de bactéries, plein de virus dans tous les sens, et puis qui n'ont rien du tout. Et on s'est aperçu qu'ils fabriquaient des espèces de peptides. Les peptides, c'est des acides aminés. Les acides aminés, c'est les petites briques qui forment les protéines. Une protéine, hein, les glucides, les lipides, les protéines. Les protéines, c'est dans la viande, par exemple. Et les protéines sont formées d'acides aminés, il y a un certain nombre d'acides aminés. Et là, ce sont des petits acides aminés, les uns à côté des autres, qui vont aller tuer, semble-t-il, beaucoup de choses. Voilà, donc il y a beaucoup de réflexions là-dessus.
Oui, alors ce que je retiens de tout ça, c'est que, c'est vrai que si je fais le compte des années de ma vie où j'étais en bonne santé et quand j'étais malade, on est fait, notre corps est fait pour être en bonne santé.
Exactement.
Notre corps est fait pour fonctionner.
Oui, et puis dans la grande majorité des cas, jusqu'à un âge avancé, on est en bonne santé. Hein. Je crois que c'est vraiment important de dire à nos auditeurs que la part de responsabilité de la médecine ou des progrès médicaux dans l'augmentation de l'espérance de vie, elle est évaluée, peut-être ça va vous surprendre, à moins de 20%. C'est-à-dire qu'on pense que les progrès de la médecine n'interviennent que pour un cinquième maximum de l'augmentation de l'espérance de vie. Donc les 4/5 sont liés à probablement essentiellement l'hygiène et l'alimentation, et puis au fait qu'on est un peu plus attentif. Quoi. Voilà. Autrefois, les gens qui travaillaient dans le bâtiment, ils portaient des sacs de kilos de ciment de 50 kilos. On a divisé à 25, c'est quand même bon pour le dos de ces travailleurs-là. Hein. Donc il y a aussi des progrès qui sont faits dans ce sens-là, qui ne sont pas liés à la médecine, qui sont liés simplement au fait qu'on a réfléchi, qu'on s'est dit « on ne va pas se bousiller le dos et on fait attention ».
Migraineuse pendant plus de 30 ans, cette infirmière a enfin trouvé son remède. Les petites aiguilles de son médecin ORL. L'auriculothérapie, c'est le nom de cette technique, est une forme d'acupuncture limitée à l'oreille qui agit sur des douleurs neurologiques.
On a répertorié sur l'oreille environ 196 points qui nous permettent d'envoyer en quelque sorte une requête thérapeutique au cerveau. Le cerveau va enregistrer ces informations. Elle les envoie en quelque sorte au corps.
J'en arrivais à 2 migraines par semaine, complètement invalidantes, qui me prenaient le jour, la nuit, et plus aucun médicament ne faisait effet. C'est un changement radical, une autre vie qui a débuté.
Cet ancien chef de service hospitalier a adopté la technique après en avoir constaté les effets sur des patients de l'Institut Gustave Roussy, ceux qui souffrent des suites de leur traitement. Après l'ablation d'une tumeur, cet homme a une hypersensibilité douloureuse de la joue.
C'est ici. Vous n'aimez pas.
Après recherche des points correspondant aux douleurs et application des implants, le résultat ne se fait pas attendre.
Elle pouvait, mais... c'est stupéfiant.
Les médicaments ne font jamais ça. C'est jamais aussi impressionnant. Les chirurgiens, ils font de la chirurgie, mais ils délabrent. Là, on reconnecte. En fait, on restaure.
Violemment critiquée pendant des années, l'auriculothérapie a aujourd'hui des arguments, grâce notamment aux travaux de ce neurologue qui s'appuie sur les progrès de l'imagerie du cerveau.
Alors, ces études ont mis en évidence de façon certaine qu'il existait une relation directe par des nerfs, si vous voulez, par le système nerveux, entre le pavillon de l'oreille et le cerveau. C'est comme un clavier de commande.
Aujourd'hui reconnu par l'OMS comme médecine traditionnelle et même enseigné à la faculté de médecine, l'auriculothérapie reste encore limitée. 200 médecins la proposent en France à leurs patients.
Il serait difficile de faire le compte de toutes les médecines parallèles. Elles vont du banal magnétisme jusqu'à la toute nouvelle médecine quantique. Ce que vous avez pu entendre, et c'est un extrait du journal télévisé de TF1 sur l'auriculothérapie. Preuve que la frontière est somme toute poreuse entre les médecines dites occidentales et les médecines traditionnelles, n'est-ce pas, docteur Dominique Desmichel ?
Je crois en tout cas que dès qu'on essaye de réfléchir à l'articulation entre la santé dans le corps et puis les approches thérapeutiques, on ne peut pas ne pas écouter tout ce qui touche les médecines parallèles. D'abord parce que les gens, ils vont consulter ces gens-là, qu'il s'agisse d'un chaman, d'un guérisseur, d'un rebouteux, d'un auriculothérapeute, d'un homéopathe. Je ne mets pas tout ça obligatoirement dans la même catégorie, hein, bien évidemment, parce qu'il y a des gens qui ont un savoir essentiellement intuitif, et puis il y en a d'autres qui ont aussi un savoir universitaire. Hein. En tout cas, il y a ces praticiens des médecines parallèles, et les gens vont les consulter. Je crois que les gens, ils vont d'abord voir une sorte de guérisseur. Et c'est vrai que ce mot guérisseur renvoie à quelque chose de très précis. Je suis malade, je vais guérir. Dans la majorité des cas, les patients s'adressent à la médecine classique, la médecine n'apporte pas de solution, et donc le patient cherche un soin, peut-être une guérison, mais il sait le plus souvent qu'il va s'agir d'autre chose.
Justement, quelle est selon vous la différence fondamentale entre la médecine occidentale classique et puis ces médecines parallèles ?
Ce qui me semble, c'est que, comme je dis souvent, la médecine classique, c'est une médecine de la géographie, c'est une médecine de l'organe, c'est une médecine de la localisation, et c'est une médecine d'une petite bête ou d'un produit extérieur, petite bête, virus ou bactérie, ou d'un produit extérieur, qui intervient à un endroit particulier, une articulation ou dans une vessie ou dans un organe. L'approche des médecines dites parallèles, c'est essentiellement une approche globale. C'est-à-dire, il va se passer le plus souvent une sorte d'échange, on pourra y revenir, parce que cet échange est parfois silencieux, avec un échange avec le soignant, une écoute, une présence, et il me semble qu'à ce moment-là, le patient se met en quelque sorte dans une sorte de résonance affective, symbolique, qu'il dépasse, qu'il pressent en général, qu'il sent à l'intérieur de son corps. Et je crois que ce qui se passe est avant tout de l'ordre du magique, mais du magique dans le sens le plus extraordinaire du terme, c'est-à-dire de ce qui dépasse le su, le scientifique, le concret, le reproductible, pour renvoyer à une sorte de globalité.
Quand j'entends dialogue, je pense aussi à la psychanalyse. Alors, dans ce cas-là, on est un petit peu dans une approche... On sent qu'elle n'est pas similaire, mais alors, où est la différence encore ?
Dans la psychanalyse, c'est autre chose. D'abord, l'objet de la psychanalyse, c'est beaucoup l'histoire, hein, à l'inverse de la médecine qui s'occupe de la géographie. La psychanalyse s'intéresse essentiellement à l'histoire. Mais une partie, et une grande partie, même si c'est en train de changer, une grande partie des psychanalystes ne sont pas extrêmement, extrêmement attentifs au corps. Hein. C'est-à-dire, ils sont dans l'idée que l'échange, le lien, transfert contre transfert qui se joue, la possibilité de parole et d'exprimer ses sentiments, ses émotions, le fait de pouvoir réexplorer sa mémoire en tant que présent intérieur, réexplorer son histoire et lui donner du sens, va entraîner une amélioration, éventuellement une guérison. Je pense que dans le rapport avec le guérisseur, on va dire en général, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un tout autre espace qu'on pourrait dire un petit peu symbolique, qu'on pourrait dire cosmique, c'est-à-dire c'est le lien entre ce guérisseur, lui-même porteur d'un savoir et d'une science souvent modeste, parce que ce sont souvent des gens modestes, mais en même temps universelle, transcendante, presque transcendantale, presque cosmique, en tout cas symbolique, où l'histoire de l'individu, même quand il vient juste avec son symptôme, l'histoire familiale, même quand il vient tout seul, sur trois générations, hein, l'histoire de l'humanité sont là présentes. Et je crois que ce qui fonctionne, c'est une sorte d'efficacité symbolique. Je crois qu'on aura l'occasion plus tard de reprendre
effectivement,
ça.
Effectivement, on reprendra ça dans notre prochaine émission pour essayer de comprendre plus en profondeur ce qui se joue dans cette relation avec le guérisseur. Mais pour revenir de manière un petit peu plus générale, comme on le présentait dans l'extrait, on sent que cette frontière elle est un petit peu poreuse aussi entre la médecine occidentale et les médecines traditionnelles. C'est-à-dire que quand la médecine occidentale a l'esprit assez ouvert, elle est capable d'aller piocher dans cette médecine traditionnelle pour s'améliorer. C'est quelque chose de relativement nouveau, ça, j'ai l'impression.
Oui, c'est nouveau. Je vous trouve un tout petit peu optimiste. La majorité quand même de mes confrères médecins, je pense qu'il n'y a plus d'ostracisme contre ce type de choses parce que voilà, je pense qu'il y a une forme de respect, et puis surtout il y a des tas de médecines parallèles qui ont montré leur efficacité. Tout le monde sait dans les villages d'Eure-et-Loir qu'il y a ici ou là des rebouteux, des passeurs de feu, etc., et que ça fonctionne.
Et ça voilà. Fonctionne, bien sûr.
Donc, comme ces gens-là, dans la grande majorité des cas, ne sont absolument pas nuisibles, comme en général ils ne demandent pas des honoraires exorbitants, comme en général ils sont modestes et qui sont là plutôt pour rendre service et qu'ils n'en font pas commerce, voilà, il y a une forme de tolérance et d'accueil. Donc moi j'ai certains de mes confrères qui sont très ouverts à ce type de choses et qui disent à leurs patients « Écoutez, si ça peut vous faire du bien, à partir du moment où ça ne vous fait pas de mal, eh ben, il n'y a pas de raison de s'en priver. » Mais ce qui me semble, c'est que dans cette démarche-là, il y a quelque chose qui est très très particulier, c'est-à-dire le patient, il vient chercher, il me semble, souvent à son insu, une sorte d'ouverture à quelque chose de lui-même, une sorte de révélation sur l'image de son corps, sur l'énigme de son corps. Je crois que le guérisseur, à la différence de la médecine habituelle, il ne se préoccupe pas du tout des causes, il ne cherche pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il convoque quelque chose. Il convoque quelque chose qu'on pourrait appeler une sorte de savoir universel ou de divinité, si vous voulez, ou en tout cas d'un système de signification qui est mis là, dans le lien, mais on s'en fout de comprendre. On convoque cet espace relationnel, on demande au patient d'y adhérer, et en général il y adhère par le simple fait qu'il est venu consulter, et on n'a pas besoin de comprendre. Le soignant, il invoque une sorte de foi dans une signification cachée, mais une vraie signification, c'est-à-dire quelque chose qui est porteur de sens. Il va utiliser un rite particulier avec des prières, des incantations. Voilà. La rationalité, elle n'a pas sa place ici. On est totalement dans l'irrationnel, c'est-à-dire dans le domaine de la croyance. La croyance, c'est très proche de la foi, hein, c'est-à-dire de la confiance dans quelque chose qui ne relève pas d'une rationalité. Hein. Voilà, comme on dit que bah, Dieu, ça ne... on va dire ça particulièrement là, Dieu, ça ne se prouve pas, Dieu, ça s'éprouve. Voilà, donc dans cet espace-là, il se passe autre chose.
Et on est dans l'irrationalité, et pourtant, des gens comme Jung étaient très ouverts à la spiritualité, ils trouvaient quelque chose de fondamental pour comprendre l'esprit humain.
Il y a deux espaces que ça m'évoque dans ce que vous me dites, ou plusieurs. Comment dire ça ? Jung a beaucoup insisté sur, en termes d'énergie, sur le fait que l'essentiel de l'énergie n'est pas simplement de nature sexuelle, comme Freud l'a oui. très bien et à juste titre montré, mais qu'elle est aussi de nature spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le corps et l'âme, il y a la psyché et le somatique, tout ça est ensemble. Moi, personnellement, je pense, je l'ai encore redit à une analysante qui est chirurgien, pourtant, donc très dans une approche très corporelle, que le spirituel, pour moi, il est de l'ordre du pulsionnel aussi. Hein. C'est dans l'ordre de la pulsion, à l'intérieur de nous-mêmes, de donner du sens à notre existence et de s'interroger sur le fait que, est-ce que la vie a une signification, où est-ce que j'étais avant que je naisse ou avant que mes parents se rencontrent même, et est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, hein. Je pense, en effet, que c'est vraiment intéressant que vous rameniez ça ici, parce que dans le rite et dans l'efficacité symbolique qui se déploie entre un guérisseur et son patient, il y a quelque chose qui est probablement, en effet, de nature spirituelle. Donc, il me semble que la non-organicité, dans un sens, c'est-à-dire celle qui n'est pas prise en charge par la médecine classique, elle peut être en effet accueillie et par ce monde extrêmement vaste des croyances et donc des guérisseurs d'un côté, et de l'autre, dans un champ peut-être un peu plus restreint, mais évidemment beaucoup plus élaboré, qui est le champ de la psychanalyse.
Votre émission Des mots pour le dire touche malheureusement à sa fin, mais nous nous retrouvons dans 15 jours, le docteur Dominique Desmichel et moi-même, pour poursuivre notre exploration dans l'univers du corps humain.